Bonjour et bienvenue sur Radio Mumpaïs 90.1. Nous sommes 12 élèves de l'Institut Myriam et avons pu assister cette semaine au festival Ciné Latino qui se déroule du 21 au 30 mars à Toulouse et tout le mois en région. Il s'agit de la 37e édition avec 140 films et courts-métrages, de nombreuses compétitions, des prix, des reprises, des invités d'honneur et des focus. Cette année, le Chili est le fil rouge avec des longs-métrages comme Sariri ou des courts-métrages tels que Chilena. Je suis Adèle, votre animatrice, et nous allons vous partager notre ressenti sur les œuvres visionnées. On commence tout de suite avec le court-métrage « Como si la tierra se la subiera tragado » réalisé par Natalia León, qui est aujourd'hui avec nous et nous fait l'honneur de répondre aux questions d'Axel et Elliot. Mais d'abord, nous écoutons un extrait du court-métrage.
¿Has visto?
Liliana Anaí Cervantes Vázquez. Sexo femenino. Estatura 1,62 m.
Sexo femenino.
Tez morena.
Estatura 1,62 m.
Sexo femenino.
Cabello ondulado.
Sexo femenino.
1,42 m.
Estatura
1,62 m.
Je suis Axel.
Bonjour, je suis Elliot. Como si la tierra se la subiera tragado. C'est l'histoire d'Olivia, une jeune Mexicaine qui revient au Mexique afin de revoir sa mère. Mais ce retour lui fera revivre un traumatisme, la disparition de sa voisine, la vendeuse de glace, à qui elle était très attachée. Nous plongeons alors dans un récit mêlant souvenirs et cauchemars sur le fil des disparitions au Mexique. Nous avons beaucoup aimé les parties pris esthétiques, sonores et visuelles qui mettent en lumière ces nombreuses femmes avalées.
Nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Natalia León, la réalisatrice de ce court-métrage. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. À quel moment avez-vous eu envie de réaliser ce film sur ce sujet ?
Bonjour, déjà merci beaucoup de me recevoir.
Avec plaisir.
Alors à quel moment j'ai eu envie de réaliser ce film ? En fait, je suis née et j'ai grandi dans la ville de Mexico. Et quand j'étais enfant, en fait, j'étais protégée par mes parents. Donc, je n'étais pas vraiment consciente de cette terrible violence qui existe dans mon pays. À l'âge de 18 ans, je pars en France, du coup, pour poursuivre mes études. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je comprends tout l'impact de cette violence. Mais je me rends compte aussi, en fait, que je suis incapable d'expliquer pourquoi ces disparitions ont lieu. Donc, honteuse, et j'avais très envie de comprendre le pourquoi, et qui étaient ces femmes, et qu'est-ce qui leur arrivait. Du coup, j'ai fait énormément de recherches, et en fait, à partir de ces recherches, j'ai développé une énorme peur. Donc, le lieu qui était mon refuge, mon chez-moi, en fait, s'est teinté de danger. Et donc, le film est né à partir de ces émotions-là.
Très bien. Est-ce que du coup, nous pouvons dire que votre vécu a été une grande source d'inspiration pour vous, pour ce court-métrage ?
Oui, définitivement. C'est vrai que la question s'est posée de quel point de vue, en fait, je raconte ou je dénonce ces événements au Mexique. Et très rapidement, je me suis dit que je ne me voyais pas trop représenter, du coup, ces événements d'un point de vue, de, par exemple, des familles. Qui vivent ça, ou même des femmes mêmes, ou des survivantes, je me suis dit que je me sentais beaucoup plus légitime de m'exprimer à partir de mon propre ressenti, de ma propre histoire. Et c'est pour ça que mes personnages principaux, donc Olivia et la jolie jeune fille, n'ont pas vraiment une relation proche. C'est parce que, heureusement, à ce jour, je ne connais aucune femme qui a disparu personnellement. Mais pourtant, leur histoire me perturbe énormément. Donc je trouvais ça très intéressant et je voulais recréer ce lien entre mes personnages.
Très bien, merci beaucoup.
Combien de temps vous avez mis pour réaliser ce court-métrage ?
Alors j'ai écrit ce court-métrage quand j'avais 23 ans. Ensuite il y a eu une longue étape de financement qui a duré à peu près un an. Je l'ai réalisé quand j'avais 25 ans. 25-26, et maintenant j'en ai 27. Donc entre 3 et 4 ans à peu près, tout le processus de l'écriture jusqu'à la post-production du coup.
Et c'est votre premier film d'animation ?
C'est ça, exactement. Du coup, en fait, c'est un film que j'ai écrit pendant ma dernière année d'études. Et en fait, après, encouragée par un de mes professeurs, j'ai décidé de chercher un producteur. Donc oui, c'est mon tout premier film, début de carrière. Donc, ouais.
Pourriez-vous nous parler de vos choix esthétiques ?
Alors, en fait, depuis le début, le plus important pour moi, c'était l'histoire que j'allais raconter. Pendant l'écriture, j'ai vraiment mis justement l'esthétique de côté. Et une fois que j'avais une version assez finalisée du scénario, je me suis rendu compte que j'avais imaginé des scènes quand même très complexes, que je ne voyais pas vraiment en prise de vue réelle, donc avec des humains et des caméras. C'est là que je me suis dit que l'animation pourrait être une bonne option. En plus, j'adore le dessin. Donc je me suis dit que ça collait bien. Et moi, j'adore la stop motion. Mais pareil, avec certaines scènes, je trouvais que j'allais pas réussir à représenter les mouvements et la sensibilité que j'avais en tête. Du coup, je me suis tournée vers la 2D, car c'est un outil qui permet de retravailler les mouvements pour du coup avoir quelque chose de très précis que j'avais très envie d'avoir du coup pour mes personnages dans leur mouvement.
La production a-t-elle été facile ?
Si vous m'aviez posé cette question il y a quelques mois, j'aurais dit non. Maintenant, avec un peu de recul, je pense que ça s'est quand même très bien passé. C'est vrai que étant mon premier film, je découvrais en fait le métier quelque part, parce qu'à l'école, évidemment, j'ai appris des choses, mais je n'ai pas vraiment appris la vie réelle de la profession. Du coup, oui, c'était un peu compliqué d'avoir toute cette responsabilité sur moi juste après être sortie de l'école. Mais j'étais quand même très, très bien entourée. J'avais une super équipe et des producteurs qui m'ont fait confiance de A à Z. Donc, je pense que finalement, ça s'est bien passé.
Est-ce qu'il y a eu une scène plus difficile que d'autres à animer ? Et si oui, pourquoi ?
Oui, il y a eu une scène qui a été particulièrement difficile. C'est du coup la scène se différencie un peu du reste, où le style change quand même pas mal. C'est une scène en noir et blanc, très contrasté, aucune nuance, où l'on voit du coup des mains sortir de la terre. Qui viennent du coup dévorer la jolie jeune fille. Elle a été très difficile parce que je me suis questionnée sur à quel point je dois montrer du coup cette violence. Parce que on peut très facilement aller très loin.
Oui, j'imagine.
Dans ce qu'on montre. Et je ne voulais pas montrer quelque chose de très cru. Je voulais que ça reste une sorte de métaphore. Donc ça a été difficile de jauger quelles images et quoi montrer. Mais du coup, j'ai eu la grande chance de pouvoir travailler beaucoup de temps avec l'animatrice, avec laquelle on a fait beaucoup de rebonds d'idées. Et on a eu vraiment le temps de se poser et de discuter ensemble.
Bien sûr.
C'était quand même très chouette, même si c'était, oui, en effet, compliqué.
Avez-vous travaillé de manière solitaire ou en équipe ?
Du coup, dans un premier temps, c'était de façon solitaire parce que du coup, mon projet de fin d'études, donc souvent, on travaille seul. Donc, tout ce qui est scénario, storyboard et animatique, je l'ai fait seul. C'est une fois avec un producteur que j'ai petit à petit pu du coup travailler en équipe. Et à partir de la production, donc tout ce qui est animation et travail sur les décors, le layout aussi, j'ai eu la chance d'être accompagnée jusqu'à la fin du coup.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport au choix de vos acteurs de doublage ? Comment cela s'est fait ?
Oui, alors du coup, c'était très important pour moi qu'on entende que ce sont des personnes latino-américaines ou mexicaines. Je ne voulais pas que ce soit des acteurs français, parce que je trouve que ça s'entend toujours. Nous avons fait un casting de latino-américains et particulièrement de mexicains à Toulouse. Donc je leur ai envoyé des phrases du scénario. Ils ont tous envoyé, toutes, parce que c'est que des femmes, envoyé des audios. Et à partir de ces audios, j'ai fait un choix. Et après, nous avons pu travailler dans un studio toulousain. Et pour l'enfant, du coup, c'était différent parce que, en fait, les enfants que l'on a trouvés à Toulouse avaient tous un accent français. Parce que, du coup, même s'ils ont des parents mexicains, bah, ils ont grandi en France, donc l'espagnol, c'est pas exactement l'accent que je recherchais. Donc, pour ce personnage en particulier, j'ai envoyé mon enregistreur son à ma mère au Mexique. Et c'est elle qui a fait le casting directement, parce que moi, je pouvais pas faire le déplacement. Okay. Donc, c'est elle qui m'a fait les audios, me les a envoyés. J'ai dit super, c'est parfait. Donc, ça s'est fait un peu maison, quoi.
Voilà. Avez-vous des projets à venir ?
Oui. Pour l'instant, rien de très concret parce que j'ai quand même voulu me reposer après cette première expérience. Et aussi, je suis dans un grand questionnement de quelles sont les histoires que je veux raconter. Là, il y a plusieurs projets qui m'ont été également proposés. Et j'essaye de ne pas faire d'erreur et de prendre mon temps de réfléchir, de savoir vers où je veux avancer. Mais oui, voilà, plusieurs projets à venir, j'espère.
Cool. Merci à vous d'être venu et d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Vous pouvez retrouver le court-métrage de Natalia León, Como si la tierra se las hubiera tragado, avec une section d'autres très bons courts-métrages, ce soir à 19h20 à l'ENSAV et demain à 14h20 à l'ABC.
On enchaîne avec Kelly et Emma qui vont nous présenter l'œuvre de Laura Donoso Toro, Sariri.
« Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Kelly et nous sommes également avec Emma. Aujourd'hui, on vous parle d'un film marquant, Sariri, réalisé par Laura Donoso Toro. Ce long métrage chilien, sous forme de conte fantastique, produit en 2023, a été sélectionné dans de nombreux festivals. Il explore la condition des femmes dans un petit village minier du nord du Chili.
Oui, et nous avons eu la chance de rencontrer la réalisatrice qui nous a livré des clés passionnantes pour mieux comprendre son œuvre.
L'histoire suit Dina, une jeune fille de 16 ans, qui cherche à se débarrasser d'une grossesse non désirée, dans un pays où l'avortement est interdit. Elle rêve de fuir vers la ville pour échapper au machisme et aux traditions oppressantes. En parallèle, sa jeune sœur, Sariri, vit une transformation intime. Elle a ses premières règles, un passage qui, selon la tradition fictive du film, signifie qu'elle doit quitter le village pour un parcours solitaire dans le désert.
Dicen que nadie se ha ido de acá. Hay rumores de que algunas lo han intentado, pero han amanecido tiradas en el desierto. Son las bestias las que esparcen sus restos. Tienen garras largas y ojos rojos. Lo usan para caminar en la oscuridad y atacar. Por eso la mamá no nos deja salir para afuera.
Et justement, cette idée de partir pendant les règles n'est pas une tradition réelle au Chili, mais de l'Inde, comme nous l'a expliqué Laura Donoso Toro. Elle a choisi cet élément pour symboliser des sujets difficiles et plus profonds, comme les violences que subissent les femmes, l'absence de droit à l'avortement et le danger auquel les femmes sont exposées lorsqu'elles doivent avorter seules, que ce soit d'un point de vue médical, légal ou social.
Le film joue aussi énormément sur la symbolique. Par exemple, dans Sariri, tout se passe dans les maisons, jamais en extérieur. Un choix volontaire de la réalisatrice pour montrer comment ces problématiques restent confinées, cachées aux yeux du monde.
Exactement. Et un des éléments forts du film est la scène où Dina étend son drap, sur lequel on peut voir beaucoup de sang, dû à son avortement. À ce moment-là, Dina n'a plus peur. Elle n'a plus rien à perdre. Il n'y a plus de retour en arrière possible pour elle. Ce drap devient alors une déclaration symbolique d'un possible départ.
Dans cette scène marquante, nous trouvons un détail lourd de sens. Devant ce drap se trouve une chèvre, attachée à un piquet. La réalisatrice nous a confié qu'au Chili, une femme est souvent appelée « chèvre » car son « mari » attaché comme une chèvre à son poteau. Ce plan est donc un message puissant. Si on ne se détache pas nous-mêmes, personne ne le fera à notre place.
Cette réflexion traverse tout le film, qui nous confronte au choix impossible que doivent faire ces jeunes filles, tiraillées entre le poids des traditions et l'envie de liberté.
¿Cuánto me cobraría por llevarme a la ciudad?
Igual es difícil, Dinita, pero tendría que pensarlo.
Mire, tengo estas cositas.
Sí, pero sabe que tengo harta esas cosas, no, a mí no me servirían. Y con eso no alcanzan a pagarme una vuelta por el pueblo.
Escucha, es que no tengo nada de plata. ¿Qué otra cosa podría darle?
¿Y por qué no va para la casa donde me estoy quedando a la noche? Y ahí hablamos más tranquilo.
Nous venons d'entendre un extrait où Dina cherche à fuir le village par tous les moyens, quitte à y laisser son corps. Ce qui est également fascinant dans Sariri, c'est aussi la manière dont la réalisatrice joue avec le mythe des bêtes.
Oui, les hommes du village croient dur comme fer à ces créatures mystérieuses qui seraient attirées par le sang impur des règles. Mais la réalité, que seules les femmes connaissent, est bien différente. Et si vous voulez découvrir Sariri, ce sera projeté à l'American Cosmo jusqu'au 8 avril et ce soir à 21h au Ciné Carbone.
Un film à voir absolument. D'ailleurs, la réalisatrice nous a confié qu'elle va commencer un prochain scénario dès son retour au Chili. Nous avons hâte d'en savoir plus.
Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120 mil intis, costará a partir de mañana 130 mil intis. El kilo de azúcar blanca.
Et Nina nous rejoignent à présent pour nous parler du court-métrage brésilien de Luisa Botelho, Bella LX404.
Bonjour Nina.
Bonjour Naomi.
Nous allons vous présenter le court-métrage Bella LX404, réalisé par Luisa Botelho, sorti en 2024. Ce film a été tourné et réalisé au Brésil. Bella LX404 nous projette dans un avenir futuriste où nous suivons l'évolution des relations entre trois personnages. Bella, Monsieur William, l'homme âgé habitant dans l'immeuble, et Zenzinho, le portier de ce même immeuble. Tout de suite, un extrait du film.
Você anda se sentindo carente? Precisando de uma companheira ou de um companheiro? Então seus dias de solidão acabaram. O MDP, Multifunctional Domestic Partner da Together, tá aqui para resolver o seu problema. E se liga, porque a gente tá com uma super promoção especial que os 5 primeiros que ligarem receberão 50% de desconto. Então, não fica sozinho aí, não. Vem você pra Together.
Stella.
Em que posso ajudar, seu William?
Eu quero comprar esse robô aí.
Ce film joue sur les apparences des personnages. Monsieur William se sent tellement seul qu'il en vient à commander un robot à l'allure d'une jeune femme sexy sur un site, comme s'il achetait un vulgaire aspirateur. Au fur et à mesure, nous pouvons voir que le robot veut réellement vivre. Il a sa conscience et fait ses propres choix. Il a ses singularités, ce qui le rend unique et le différencie des autres robots de la même entreprise. Ces singularités et le titre de l'œuvre peuvent nous faire penser à un bug dans la confection du robot. Car si vous avez déjà vu des problèmes de connexion sur votre navigateur de recherche, vous pouvez peut-être avoir vu s'afficher sur votre écran « Erreur 404 ».
L'autonomie et l'indépendance de cette machine tournent les personnes en dérision et conduisent à des scènes comiques. Ce film permet de nous interpeller sur la place de l'intelligence artificielle dans notre société. Va-t-elle devenir complètement indépendante ou l'homme aura-t-il toujours le dessus ?
Nous avons pu rencontrer la réalisatrice de ce film qui promet de faire de ce court-métrage une série autour de la vie de chaque personnage. Nous l'attendons avec impatience.
¿Quieres divertir? Nueva York.
no te confundas. No, no, mejor evita. Ey, un chat de cañita en casa de Toñita. Y PR se siente cerquita. Sí, sí, sí. En el campeonato nadie me lo quita.
De ese nuevo, no me guande, de ese nuevo, ok.
On retrouve maintenant Eileen et Maeva qui ont choisi d'échanger sur le film Reinas, réalisé par Claudia Reinicke. Mais avant cela, on écoute un court extrait.
Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca que solo se conseguía a 150.000 intis costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude.
Bonjour Maeva.
Bonjour Eileen.
Peux-tu me dire de quoi parle le film Reinas?
Ce film, réalisé en 2024, raconte l'histoire d'Elena et ses deux filles qui souhaitent rejoindre les États-Unis pour fuir la crise économique du Pérou en 1992. Le père, absent et qui n'a pas grand-chose à leur offrir, va tenter de se rapprocher de ses filles qu'il surnomme ses reines avant le départ.
Est-ce une histoire vraie?
C'est un contexte que Claudia, la réalisatrice, a vécu elle-même puisqu'elle a grandi au Pérou avant de partir à l'âge de 10 ans. Cependant, les événements du film ne lui sont pas réellement arrivés, mais les sentiments sont vrais. Et toi, qu'est-ce qui t'a touchée dans ce film?
Le personnage de Carlos, le papa. Il est touchant pour plusieurs raisons. C'est un mythomane, il s'invente une vie pour faire rêver ses filles, et bien qu'il vienne d'une autre classe sociale, il est prêt à donner tout ce qu'il a pour sa famille. D'ailleurs, nous allons écouter un extrait qui nous a particulièrement marqué.
¿Qué es eso?
Azúcar.
¿De dónde conseguiste azúcar? Me estás apaparando, ¿no?
Mejor no te cuento.
Ay, Dios santo.
Listo. Agarren lo que necesiten, ¿eh? Ese es mi aporte.
Vilma, mira hija, agarra 5 kilitos.
Que sean 6, ¿me puedo quedar con uno?
Claro.
Dans cet extrait, nous avons entendu Carlos offrir son sucre, denrée devenue rare à cette époque.
As-tu aimé le film et pourquoi?
Oui, j'ai bien aimé le film car il aborde de manière touchante les relations familiales dans un contexte de crise économique, notamment la relation complexe entre le père et ses filles qui m'a particulièrement émue. Et si vous, auditeurs, vous souhaitez voir ce film, rendez-vous ce soir à 20h30 à l'American Cosmo. Nous allons maintenant écouter un morceau de la bande originale du film. Nous sommes désormais avec Roman et Daoumi qui vont nous présenter Coup et voix de Maxime Jean-Baptiste.
Bonjour Roman.
Bonjour Daoumi.
Nous venons d'entendre le dernier extrait sonore du film qui est une musique de carnaval. Coup des Bois a été réalisé en Guyane française, à Cayenne, par Maxime Jean-Baptiste. Un film qui porte sur le deuil et le pardon. Coup des Bois est une fiction documentaire. Il mélange à la fois le réel et la fiction. Le sujet principal traite de la mort de Lucas, décédé 11 ans plus tôt, de manière tragique. Melric, son neveu, et Yannick, son meilleur ami, suivent leur propre chemin vers le pardon, aidés pour cela par Nicole. Maintenant, nous allons vous partager la scène dans laquelle la sœur du défunt rend hommage à Lucas.
Merci aux habitants de Moluca. Merci à la population guyanaise. Merci beaucoup. Attendez-vous. Magnifique sonnette. Il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup son carnaval. Il aimait beaucoup les membres de Maïnouri Chonneg aussi. Merci beaucoup à tous. Merci.
Plusieurs périodes dans le processus du deuil sont présentées pour chaque personne proche de Lucas, jeune homme assassiné et admiré dans tout son quartier pour sa musique.
L'auteur, dès le début, nous plonge directement dans le sujet avec des images d'archives. Son montage mélange plusieurs époques. On retrouve ainsi Nicole à l'enterrement de son fils, puis 10 ans plus tard, lorsqu'elle prend soin de son petit-fils.
Chacun vit le deuil différemment. Le meilleur ami se sent encore coupable, portant lui cette mort qu'il associe à la violence en Guyane.
Mais celle que nous avons le plus retenue est Nicole, pour son jeu d'actrice et son monologue sur le pardon qui nous a troublés. Nous allons d'ailleurs vous faire écouter une partie.
Et lui, il était là comme si rien s'était passé. Il a fait son temps de prison, il est sorti. Pour lui, il a payé sa dette, il vit tranquille. Je ne suis pas sorti du véhicule. J'avais qu'une idée en tête, Mémel. Il était juste devant moi. Pourtant, j'ai les vitres de la voiture très peu teintées. Mais peut-être qu'il n'était pas sur moi, il ne pensait pas à moi. Peut-être qu'il me connaît, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, je l'ai reconnu. Tu sais ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu lui rentrer dedans avec mon véhicule. Mais on était vraiment à moins de 2 mètres. Hein. Tu m'écoutes?
Oui.
Tu m'entends?
Oui.
Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé un inspecteur de police. Et je lui ai raconté. Je lui ai dit, voilà, je me trouve devant un libre-service. Un des protagonistes dans l'affaire de Lucas se trouve juste devant moi, à moins de 2 mètres. Alors, je lui dis, je pensais que j'allais pouvoir me contrôler en les voyant un, deux. Mais là, c'est trop fort et c'est trop fort pour moi. Moi, je vous appelle pour vous dire que dans quelques minutes, vous allez devoir venir me chercher. Parce que là, il se trouve juste devant moi, à moins de 2 mètres, et je vais l'écrabouiller avec mon véhicule. Mais j'étais très en colère, Médric, très en colère. Mais il s'en est fallu de peu, Médric. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que ta mamie, elle serait pas là avec toi.
Nous vous conseillons vivement de voir Coup des Bois, qui vous plonge dans une Guyane rarement représentée, dans une Guyane aimante et cruelle.
Courageux,
bon Dieu paye grave au galibalisant pour les gratter. Bon Dieu paye serpent caïbali vent pour les ramper. L'on l'a déré, l'on l'a déré. Bon Dieu paye serpent caïbali vent pour les ramper.
Et enfin, pour la dernière chronique, Maïlis et Théo se sont penchés sur Mala Junta, un film de Claudia Aokimilia.
Dans cette chronique, nous allons vous présenter le film Mala Junta de Claudia Aokimilia, un drame poignant et contemporain qui se déroule au cœur du Chili. Ce film raconte une histoire d'amitié entre Tano et Cheo, deux adolescents chiliens. Tano, c'est un adolescent turbulent qui est envoyé dans le sud du Chili, chez son père qu'il n'a pas vu depuis plusieurs années. Au lycée, il fait la connaissance de Cheo, jeune garçon mapuche, timide et malmené par les autres élèves. On peut se demander comment les deux protagonistes se complètent à travers leur complicité. Ce film, Mala Junta, a su captiver notre attention grâce à son approche sincère et émouvante du conflit mapuche, tout en mettant en lumière la relation unique entre ces deux protagonistes. Le film explore des thématiques puissantes comme les injustices sociales et les conflits environnementaux.
No, weón. ¿Qué weón,
weón? Weón, es abusador, hijo.
À travers un drame social, le film illustre les conséquences tragiques de l'implantation d'une usine de cellulose par l'État sur les terres ancestrales de la population mapuche dont est originaire la réalisatrice. Non seulement ces terres sont dégradées, mais la vie des habitants est empoisonnée par une atmosphère saturée de chlore et de soufre. Si cette chronique vous a convaincu, ne manquez pas la rediffusion de Mala Junta le 31 mars 2025 à 18h45 au Cratère à Toulouse. Une occasion parfaite pour découvrir cette œuvre engagée qui ne laisse personne indifférent. La réalisatrice a été primée en 2024 avec son second film, Mis Hermanos. D'ailleurs, un troisième film est prévu très prochainement. Ce film nous a marqué par son authenticité et son engagement. Nous vous le conseillons absolument.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiray. Allí ya chupa, 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 ya chupa,
ya chupa,
ya Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima.
Nous remercions pour cette expérience enrichissante l'Arcalt, Laura, Rosalie, Radio Mumpaïs pour nous avoir accueillis et l'Institut Myriam de nous avoir offert l'opportunité d'animer ce direct radio. Cela a été une semaine formatrice pour nous.
Et que vive le cinéma !
Discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre,